Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Je sors le ticket, tu vois, je ressors le ticket, je déplie tout, je sépare les deux feuilles et je lis, et puis d'un coup je réalise que c'est le code millionnaire, tu vois, donc c'est pas 30 000 euros, 40 000 euros, c'est un avec 6 zéros derrière, tu vois. J'ai failli vomir sur le ticket. L'émotion était trop forte.
Il est sympathique, Jean-Marc. Il a travaillé toute sa vie. Et il s'apprêtait à arriver à la retraite, pas bien riche. Ou alors riche de soucis. Mais il a enfin eu de la chance. Et vous vous souvenez, tous les reportages un peu sensationnalistes qu'on a vus à la télé sur les gagnants du loto? La cellule psychologique de la Française des Jeux, qui leur vient en aide parce qu'ils pètent les plombs. Leur peur de le dire à leurs proches. Leur sidération et leur solitude face à tout cet argent qui tombe du ciel soudain. Eh bien, oubliez tout ça. Aujourd'hui, on vous propose une belle histoire de thunes. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Jean-Marc. Jean-Marc, tu as 65 ans et tu as gagné au loto.
J'ai gagné l'année de mes 60 ans. Je suis né en 1957.
Donc, tu as gagné au loto il y a 5 ans.
5 ans.
Et tu as gagné 1 million.
1 million, ouais, c'était le millionnaire. Tu as le tirage et la loterie, ce qui reste de la loterie nationale, le numéro gagnant, un ticket.
Alors, avant ça, tu as eu toute une vie professionnelle.
Mm-hmm.
Tu es né où ?
À Alger.
Et tu viens d'une famille aisée ?
Pas spécialement aisée au niveau de l'argent, mais disons que, en tant que gamin, je me posais pas la question.
Vous étiez nombreux dans la famille ?
Je suis l'aîné de 3 enfants, une sœur, la cadette, et un garçon, le Benjamin.
Tu faisais plutôt quoi comme genre de boulot ?
Des métiers de relations clients. Tout ce qui touche à la relation client pour des boîtes comme La Redoute, comme les Trois Suisses. Et après, je me suis orienté vers quelque chose de plus technique. J'ai bossé pour des sociétés de téléphonie, pour Orange, finalement. Et entre-temps, j'ai bossé une dizaine d'années pour la SNCM, la compagnie maritime qui assurait les liaisons entre la Corse et la France. Corse dont je suis originaire aussi, il faut le dire.
T'avais quel genre de salaire ? C'était combien les salaires que tu touchais ? T'étais commercial en quelque sorte ?
Oui, j'ai fait beaucoup de commercial, oui. En salaire moyen, je suis à la retraite depuis 3 ans. J'ai une retraite de 1100 euros à peu près. 1100 euros par mois.
Et tu gagnais combien dans ta vie active ?
J'ai dû gagner la SNCM où j'ai fait une carrière de 10 ans. Je devais gagner 1600 euros net, 1500 euros net, lissé sur l'année, tu sais, avec les jeux des 13e mois, qu'on touche en deux fois, etc. Mais pour moi, c'était bien. Je veux dire, c'est ce qui te permet de vivre. Je dis pas de survivre quelques fois, mais ça te permet de vivre.
Tu mettais de côté ?
Non. Les quelques plans que j'ai faits pour essayer de épargner comme un écureuil, mais le quotidien, la vie quotidienne te brûle tes économies avec une facilité déconcertante, quoi.
Est-ce que t'es du genre à claquer ?
Oui. J'ai toujours essayé de profiter de la vie, ça c'est clair. Un événement comme ça me serait arrivé à 35 ans ou à 40 ans. Je pense que les choses se seraient passées de façon complètement différente. Oui.
Fait de gagner au loto ?
Oui. Tu peux pas... Il y a une expérience qui fait que moi, quand ça m'est arrivé, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était d'une part de partager. Il y avait une notion de partage qui était très forte. comment partager. Et puis après, une fois ce partage effectué, je serai libre de faire ce que j'avais envie de faire, tu vois, ce que j'ai toujours envie de faire.
Alors, on va prendre les choses une à une. D'abord, j'aimerais quand même savoir si pendant ta vie avant, pendant
oui.
tes 60 ans de vie avant, tu avais déjà connu des périodes de dèche, par exemple.
Terrible, terrible.
T'as manqué d'argent ?
Oui, oui. Oui, oui, incontestablement.
Tu t'es retrouvé à faire des emprunts ou avoir des dettes ou...
Oui, des crédits pour avancer, pour vivre. Bon, je me suis laissé aller, je me suis beaucoup laissé aller. Je ne suis pas tombé dans la déchéance totale, mais je me suis retrouvé plusieurs fois sans boulot. Enfin, tu vois, tu perds ton boulot d'un coup sur de mauvaises relations, sur des malentendus, sur des choses comme ça. Et jusqu'à très tard, je refusais de faire de l'intérim. Pour moi, c'était humiliant. J'ai été dans des situations où j'aurais pu demander le RMI et je l'ai pas fait. Et la seule fois de ma vie où je l'ai demandé, j'ai trouvé du travail dans les 15 jours qui ont suivi. Donc, il y avait cette espèce de relation un peu...
Ouais, pas justement, pas franchir la barrière de la pauvreté en quelque sorte.
Non, mais voilà, être...
Mais pas non plus en sécurité.
Voilà, oui. Oui. Ouais. Je pense que ça, ça a été...
Est-ce que tu as toujours joué au loto ?
Oui, assez singulièrement, et pour des raisons assez futiles, c'est que mon père me disait toujours, il y a toujours une chance. Il y a toujours une chance, quoi qu'il arrive. Donc quand j'achetais ces clopes, mon père est mort d'un cancer du poumon, j'en profitais pour prendre un ticket, un flash, tu vois, je demandais un flash. J'ai fait ça pendant longtemps, hein, peut-être que depuis que le loto existe. Hein,
Après, même quand il n'y avait plus ton père, t'as continué à...
Ouais,
toi, quand t'as acheté tes clopes,
à acheter mon ticket de loto.
Et alors, on arrive à ce jour où tu gagnes.
Mmh.
C'est quoi ta situation, le jour où tu gagnes?
C'est très très compliqué. On est en 2017. Je suis en invalidité suite à mon problème cardiaque.
Donc t'as une pension d'invalidité?
Ouais, ouais.
Qui s'élève à peu près à... C'est 800 euros,
je me souviens plus, non, oui, ouais. Mais ça doit être ça, oui. Et j'ai ma mère qui est malade, ma mère qui a aujourd'hui 88 ans. À l'époque, elle en avait 80. Je me suis occupé de ma mère depuis 2012. Je suis parti pour la soigner en Corse, elle habite en Corse, pour la soigner, etc. Donc j'arrive au bout d'une période, tu vois, je suis épuisé, il y a la retraite qui approche.
Toi, tu travailles encore à ce moment-là?
Non, je suis en invalidité complète.
Ah oui.
En invalidité complète.
T'es pas propriétaire de ton appartement?
Non, je suis en location, à location logement. Quand ma compagnie m'a licencié, j'ai gagné un procès au prud'homme. J'ai beaucoup investi dans les soins de ma mère. Je suis allé vivre avec elle en Corse, tu vois. J'ai assuré les frais d'essence. Bon, je me suis occupé de tout, quoi. Hein. J'ai essayé de faire du mieux. Elle avait un cancer de l'estomac, enfin bon. Et je te dis, c'est une période à la fois terrible parce que j'approche de la retraite. Je sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Je suis en invalidité, bon. Après, ma vie personnelle, j'ai mes amis, tu vois, je fais bonne figure comme j'ai appris à le faire depuis le début, tu vois, je veux dire, on ne montre pas ce qui ne va pas, on ne parle pas, les gens se doutent bien de toute façon, mais j'en suis au stade où j'ai l'impression que même ma banque va me couper les couilles, quoi. Hein.
Ah ouais, t'as des coups de fil du banquier?
Le dernier conseil que m'a donné mon banquier, c'est d'aller voir CTLM, tu vois.
Non.
Oui, oui. Donc, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, la vie est normale. Je pars un vendredi me balader dans les collines avec mon vélo. Je passe par un tabac que j'ai beaucoup fréquenté à une époque où j'habitais dans le quartier par lequel je passe. J'achète mon ticket, mon tabac, tu vois, mon ticket. Et je pars dans les collines, je fais ma balade, et, comme tous les jours. Et puis le lendemain, et il est 5 heures de l'après-midi, je décide d'aller au tabac pour acheter mon tabac, tout simplement. Je me présente, c'était un vendredi, il y avait du monde, c'était très agité comme ambiance. Je mets le ticket dans le lecteur, et là, je lis pas tout, mais je vois paiement CPT obligatoire. Ce que j'avais pas vu à l'époque, c'est quand il y avait gros lot, d'accord ? Paiement CPT obligatoire. Et comme je te le dis, l'ambiance était vendredi soir, fumée, tabac PMU, grosse ambiance. Je me mets dans la file, j'arrive jusqu'au bonhomme, je lui montre mon ticket, je lui dis, il me dit que le paiement CPT est obligatoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, le mec me regarde et me dit, vous avez gagné au moins 30 000 euros. En dessous de 30 000 euros, c'est on te paye directement là, tout de suite.
Au guichet.
Au guichet. Au-delà de 30 000 euros, il faut que tu ailles dans un centre de paiement. Et là, je lui dis, vous pouvez me dire le ticket, combien j'ai gagné. Et là, dans le bruit et tout, il regarde, il plie le ticket, tu sais, en petits morceaux, il me dit d'approcher. Il me prend la poche de la veste, il me met le ticket dedans, il me dit quelque chose que je comprends pas a priori. Vous avez 1 million. En fait, il me disait, vous avez le million. Mais là, j'ai pas compris, tu vois, j'ai pas percuté. Donc, je lui dis merci beaucoup parce que au niveau physiologique, tu vois, t'as ton organisme qui restait sur 30 000 euros. Donc, 30 000 euros, c'est à peu près l'équivalent de ce que j'avais gagné au prud'homme, tu vois. Je me disais d'une certaine façon, tu te dis, tu sais, des fois, t'entends, putain, il faudrait qu'il me tombe 20 000 ou 30 000, là, tu vois, et tout va bien. Je me disais, bon, ben voilà, tu as dit, tu as. Et j'étais là, je sors du bar tabac un peu hébété, je rentre à la maison. Et puis, ça bouillonnait trop, tu vois, je dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire, etc., etc. Et là, je sors le ticket, tu vois, je ressors le ticket, je déplie tout, je sépare les deux feuilles. Et je lis, mais et puis d'un coup, je réalise que c'est le code millionnaire, tu vois. Donc, c'est pas 30 000 euros ou 40 000 euros, c'est un avec 6 zéros derrière, tu vois. Là, j'ai failli vomir, tu vois. J'ai failli vomir sur le ticket. L'émotion était trop forte, tu vois. 1 million d'euros, c'est... Et puis...
Physiquement, ça t'a fait...
Ah, physiquement, ça m'a fait l'effet d'un rush. Ça m'a fait l'effet d'un rush. Ah, enfin, moi, hein, après, je sais pas, je pense que...
C'est quoi un rush?
Tu sais, le rush, quand tu as le... Quand tu,
quand tu prends de la drogue, par exemple,
oui,
et t'as une grosse montée.
Voilà.
Ah ouais.
Et là, je replie le ticket, je commence à marcher, j'appelle ma mère, je lui dis, maman, tu sais pas ce qui vient de m'arriver. Et ma maman t'imagine son état à l'époque. Je viens de gagner 1 million d'euros, maman. Ah oui? Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, je rentre à la maison. Elle me dit, rentre vite. Et voilà, à partir de là, a commencé, je crois que j'ai passé une semaine sans dormir.
Ah ouais?
Ouais.
T'étais retourné, quoi.
Ah ouais.
Mais c'était quoi, les émotions? T'avais peur?
Maintenant qu'on en parle... C'est flou au niveau des souvenirs, c'est flou. Mais oui, réfléchir à quoi faire. Alors, tu essayes de d'abord, il y a le moment où tu te dis aussi, mais pourquoi maintenant comme ça, tu vois. Et puis d'un coup, tu essayes de t'approprier la chose. Ça relève du miracle. Tu as tout à portée de main. Mais je pense que c'est peut-être lié au fait que j'avais gagné, mais j'avais pas le chèque. Parce qu'après, il faut que tu ailles à la Française des Jeux, etc., etc. Donc c'est une période, si tu veux, où je crois que c'était un vendredi, donc il a fallu attendre le mardi. Donc tu restes 4 jours comme ça avec le ticket et tu sais que le centre de paiement n'ouvrira que mardi. Donc quoi faire? Tu rumines pas, mais il faut l'assimiler, hein, quoi. Faut l'assimiler. Faut te dire qu'est-ce que je vais faire. Et pour le justifier, tu dis ben voilà, tu l'as voulu, tu l'as eu, tu as gagné. Il faut assumer. Maintenant que j'en reparle, effectivement, je me souviens de cette période. Physiquement, c'est très. Moi, j'ai trouvé ça très fort. Hein. Peut-être aussi parce que, je veux dire, je suis hypersensible. Pour te donner un ordre d'idée, quand je suis parti faire mon tour du monde presque 1 an après, je pleurais quasiment tous les jours. Tous les jours, pendant un certain temps. Quand tu vis ce genre de situation, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu deviens hypersensible à tout.
Alors, le mardi matin, quand ça ouvre?
Tu vas au centre de paiement de la Française des Jeux, tu te présentes, ça ouvre à 9h, on était 2 personnes, je crois, une qui avait gagné un astro, et moi. Et tu rentres, c'est assez impersonnel, on dirait, tu rentres dans un box, où il y a 4 chaises, mais c'est vraiment très austère, hein. C'est pire que la sécu. Et après, tu as un autre bureau où il y a un terminal, et c'est là où on te fait rentrer, on te demande d'attendre, et il y a quelqu'un qui vient vers toi, et qui te dit, nous vous attendions.
Comme au paradis.
Comme au paradis, oui, exactement. Nous vous attendions, et il est venu de Paris exprès pour ça. le mec. C'est-à-dire que personne, on n'a pas téléphoné, rien du tout. On savait que ça ouvrait. Mais il y avait quelqu'un qui était là et qui attendait que le gagnant à 1 million se manifeste. Ça, c'est curieux, mais bon.
Et alors, il te demande de la pièce d'identité.
Voilà, il te demande une pièce d'identité. Il t'explique, en gros, que tu vas récupérer la somme dans un délai d'à peu près 10 jours. On vérifie bien que tu sois le propriétaire du billet. C'est-à-dire qu'à un moment, on te demande où tu l'as acheté.
Ah ouais?
Et oui. Ils font quelques contrôles pour être sûr que c'est toi qui es le propriétaire du billet, que tu l'as joué et qu'ils veulent savoir où tu l'as acheté.
Mais si tu l'avais trouvé dans la rue, par exemple?
Tu serais vachement emmerdé. Ça marche pas. Ça dure pas très très longtemps. Je te dis le temps d'expliquer le process. Au bout d'un moment, on te dit, est-ce que vous avez joué seul ou à plusieurs?
Ah bon?
Oui. Alors là, quand on m'a posé cette question, je sais pas pourquoi j'ai eu un espèce de flash et je me suis dit, là, il faut que je fasse gaffe. J'ai dit non, on a joué à plusieurs. Il me dit oui, d'accord, avec qui vous avez joué? Je dis avec ma sœur qui est là, ouais, d'accord. Et qu'est-ce que vous souhaitez faire donc? J'ai dit, ben on va partager, d'accord. Et comment vous allez partager? J'ai dit, ben 130 000 euros pour ma sœur et 870 000 euros pour moi.
Parce qu'en vrai, elle n'avait pas joué avec toi.
Non.
Ah oui, voilà,
tout.
C'est ça.
Non.
Ah, tu t'es dit, qu'elle en bénéficie hors impôt,
oui.
En fait, t'as pensé à ça.
Oui, je crois que c'est ça, inconsciemment. Je me suis dit, si on me pose la question, c'est que je pourrais pas faire n'importe quoi avec cet argent s'il est entre mes mains.
Donc si je veux l'enfiler, c'est maintenant.
Je
et donc direct, t'en as filé donc
130 000 à ma sœur, parce
voilà.
Que je connaissais sa situation, je savais par où on était passé, parce que quand je te dis que j'ai beaucoup aidé ma maman dans le cadre de sa maladie, ma sœur c'est pareil, hein. Elle a sacrifié beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et puis c'est ma sœur. Je pouvais pas la laisser, il fallait que je partage ça d'une façon ou d'une autre, au moins avec
elle. Tu lui en avais parlé à ta sœur, du
non.
Fait que t'avais gagné?
Non. Si, oui, que j'avais gagné, oui, mais que j'avais l'intention de partager, non.
Et t'en avais parlé à ta sœur et à ta mère, c'est tout?
Non, après j'ai prévenu quelques amis quand même, j'ai de bons amis ici.
Alors voilà, il y a toujours ce marronnier de dire « Ah, les gagnants du loto, leur problème c'est de savoir s'ils doivent le dire ou pas, parce qu'éventuellement ils pourraient s'attirer des jalousies ou ce genre de choses. » Est-ce que t'as pensé à ça? Et est-ce que ça a été le cas?
Non, je pense pas. De la part de mes amis, non, j'ai eu aucun problème par rapport à ça. Non, les gens ont assez bien accepté. Et puis beaucoup de gens m'ont dit que j'étais très, enfin que c'était bien que ce soit tombé sur moi, tu vois.
Donc tes potes, ils ont juste trouvé que c'était canon pour toi, quoi.
C'était canon pour moi. Et puis moi, en le disant, je disais, voyez, ça peut vous arriver aussi, quoi. Il faut, je veux dire, on n'a rien sans rien dans la vie. Si on n'y croit pas un temps, soit peu, tu vois.
Alors, t'as appelé ton banquier, ta banquière, je sais pas.
Alors là, les relations avec la banque, je te l'ai dit tout à l'heure. Hein, moi, ma banque, c'est très très difficile d'en parler. Je suis allé dans une autre banque.
Direct.
Je vais voir la HSBC. La banque moderne aujourd'hui, je veux dire, c'est les guichetiers, d'accord. Donc j'arrive avec mon chèque de 870 000 euros chez HSBC. Je donne mon chèque à la guichetière. Une transaction fort simple, hein, au demeurant. Et je la regarde et je lui dis « Combien de temps pour la compensation ?» Et alors là, je me trouve à une espèce de Miss Piggy qui pouffe, en me disant « Ah, 10 à 12 jours !»
Ça veut dire que tu peux pas toucher ton argent avant 10-12 jours.
Et là, je lui dis « Pardon ?» Mais vous savez que ce délai-là, j'aurais pu aller à la banque postale à côté de chez moi, hein, 10 à 12 jours pour compenser un chèque. Et là, la nana réalise, tu vois... Qu'elle a merdé, parce que je peux te dire que j'étais pas en colère, mais et donc là obligé d'appeler la chef d'agence, tu vois, la chef d'agence à HSBC à Saint-Barnabé. On a discuté un petit peu, mais tu sais le discours de un discours vide, quoi. Oui, vous comprenez, la sécurité, mais ce que je vais faire, je vais vous donner une autorisation de découvert de 10 000 euros et vous aurez votre carte après-demain, tu vois, ma carte infinite, la fameuse carte noire, tu sais.
Tes 860 000 euros, tu les gardes pas tous sur ton compte courant, j'imagine?
J'ai tout dépensé.
Alors, en combien de temps?
Dans les 6 premiers mois, j'ai flambé 600 000 euros.
Mais comment?
C'est 3 appartements.
Ah, t'as acheté des appartements?
J'ai acheté 3 appartements.
Ah, t'as pas tout claqué, en fait. T'as investi.
Moi, pour moi, j'ai claqué, tu vois. C'est comme le Monopoly. J'ai acheté trois maisons.
T'as acheté la rue de la Paix.
Non, plutôt la rue Henri Martin. Tu sais, c'est ces petits placements.
Donc, t'as acheté des petits apparts à Marseille?
J'ai acheté trois apparts. Je les ai, avec ma sœur et ma nièce et mon beau-frère, on a fait une SCI. Et ma sœur me loue un appartement, ma nièce me loue l'autre.
Donc, en fait, t'es chez toi maintenant?
Je suis chez moi. Je complète mes revenus par rapport à ma retraite dont je te parlais tout à l'heure. Je complète mes revenus avec 500-600 euros par mois.
Du coup, t'arrives à 2000 par mois, quasi.
Voilà.
Ouais, un peu moins.
Et j'ai un petit peu d'économie pour, comme on disait à une époque, la poire pour la soif, tu vois, mais. Voilà, quoi, je vis tranquille, j'ai fait un tour du monde.
Alors, t'as fait un tour du monde, quand même?
Ouais, j'ai fait un tour du monde. J'ai fait le tour du monde en 80 jours.
Oh.
Eh ouais. On a quand même...
T'es parti tout seul?
Ouais. Ouais, j'ai fait mon billet avec une Star Alliance. Et j'ai choisi quelques pays. Il fallait partir vite, il fallait que je change vraiment d'air, que je me retrouve. J'avais besoin de partir, tu vois. J'ai toute ma vie, j'ai rêvé de voyager.
Et t'avais voyagé pendant ta vie avant, beaucoup?
Oui, j'avais voyagé pas mal. J'avais fait le Pérou, le Mexique, l'Espagne, la Grèce.
Mais là, est-ce que t'as voyagé sans te poser la question de l'argent?
Oui. Je pense que quelque part inconsciemment, j'ai mené une vie d'agent secret. Tu vois, j'avais mes billets d'avion, j'allais de place en place et je me suis retrouvé un peu quand même, hein.
Alors, tu disais que malgré tout, le choc initial, il s'était pas arrêté tout de suite. Ça continuait à te tarauder en quelque sorte.
Oui, moi je crois que c'était la compensation, la décompensation. Je suis arrivé à 60 ans, j'étais fatigué, tu vois ce que je veux dire? C'est cette vie qui est pas terrible. À ce moment-là, si tu veux, j'étais un peu désespéré, hein, quand j'ai gagné. Physiquement, psychiquement, j'étais mal, quoi. Hein. J'étais très déprimé parce que mon avenir, c'était j'habite seul avec maman dans un très vieil appartement en Corse. Tu vois. Et aujourd'hui, rétrospectivement, quand je regarde, si cette situation s'était réalisée, on aurait avec ma maman des revenus de 2700 euros par mois.
À tous les deux?
À tous les deux. Ce qui veut dire que pour vivre, pas mal, tu vois, je veux dire, s'il y a des gens qui vivent avec, enfin, on va pas faire du prosélytisme, bon. Mais bon, c'est la vie en Corse, tu vois, la vie avec une femme de 88 ans qui nécessite des soins.
Toi, t'imaginais ton futur, donc vivre avec ta mère?
À l'époque, parce que c'était la seule solution, il allait falloir quelqu'un pour s'occuper d'elle. Et que voilà, ma sœur, elle revenait
donc
à Marseille.
Donc t'imaginais lâcher ton appart à Marseille?
Voilà, rentrer en Corse aux alentours de 62 ans pour m'occuper de ma maman de 88 ans.
Et du moment où tu gagnes, tout change évidemment. Donc ta maman, tu peux lui trouver des soins...
À l'époque, si tu veux, moi je pars faire le tour du monde, elle est venue vivre chez moi, ma sœur habite au-dessus, donc...
Ah oui, t'as pu accueillir...
Oui, maman, je l'ai prise dès que j'ai eu l'appartement. Moi, je suis parti, elle est venue vivre ici.
Ah oui, ça a tout changé, en fait. Au lieu que tu te retrouves là-bas, elle a pu venir chez toi.
Oui.
C'était beaucoup plus simple pour toi.
Pour moi. Et là, à l'époque, j'étais à 2 ans de la retraite, en invalidité. Je partais faire le tour du monde. J'ai envoyé les papiers à la sécu en leur disant, je pars. Tu sais pourquoi je suis parti 80 jours? Parce que si tu voyages plus de 90 jours, en termes d'assurance, ça devient très compliqué pour te couvrir. Donc j'ai dit, allez, s'il faut faire moins de 90 jours, on va faire comme Jules. En 80 jours, ça devrait être bouclé.
Comme Jules Verne.
Voilà.
Donc, appartement, voyage. Est-ce qu'il y a d'autres luxes que tu t'es offert?
Je crois que la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée au bout de tout ça... C'est quand même de rencontrer quelqu'un à 60 ans.
Tu penses que c'est lié?
Je sais pas, mais jusque-là, je n'y arrivais pas. Et là, j'y suis arrivé. J'ai rencontré quelqu'un le premier jour de mon voyage. Je suis arrivé... la première étape de mon voyage, c'était le Costa Rica, que je rêvais de visiter. Premier jour, j'arrive, je dors, je me lève, je décide d'aller boire un coup. Je rencontre quelqu'un.
Avec qui t'es toujours?
Ouais. On n'est pas axé, il est venu vivre en France.
Ce qui est fou, c'est que je t'ai demandé quel était le plus gros luxe que tu t'étais offert. Et tu me réponds quelque chose qui n'est pas du tout... que tu t'es pas offert, que la vie t'a...
Que la vie m'a offert, oui,
que
oui,
la
non.
La vie t'a offert. Mais en fait, toi, enfin, l'argent en question n'a pas forcément,
non.
En tout cas, à voir
non,
avec
non,
ça.
Si tu me donnes le choix entre 1 million et une belle histoire d'amour, Il y a de fortes chances pour que je choisisse la belle histoire d'amour.
Est-ce que cet argent t'a rendu heureux, tu crois ?
Oui. Oui. Et une des choses que j'ai beaucoup appréciées dans la période qui est dans toute cette période de voyage, c'est que très très souvent, j'avais l'impression de respirer la vie comme je la respirais quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. Tu vois, de re-respirer la vie avec, d'avoir les mêmes goûts, les mêmes des odeurs que tu as senties il y a déjà très très longtemps.
T'avais vraiment l'impression de renaître en quelque sorte.
Mais la vie commence à 60 ans, disait Tino Rossi. La vie commence à 60 ans et les Japonais, eux, disent qu'à 60 ans commence ta deuxième enfance.
Voilà. Et est-ce que le confort matériel que la vie t'a octroyé,
oui,
ou que tu t'es octroyé en jouant à l'auto, mmh, ça a contribué beaucoup à ce bonheur-là ?
Ouais, quand même. Quand même.
J'ai l'impression que ça t'a reposé. J'ai l'impression que ça t'a permis de...
Ah oui, j'ai décompensé des années de... Je te dis, être joyeux, être lunaire, être désinvolte, ça nécessite beaucoup d'énergie, parce que y a rien, dans la vie, rien n'est désinvolte.
La Française des Jeux évoque souvent, et on le voit dans plusieurs reportages, la cellule psychologique qu'ils mettent en place pour les gagnants du loto, justement, pour qu'ils pètent pas les plombs. Est-ce que tu as eu droit à ça ? Est-ce que tu as pété les plombs ?
Si j'ai pété les plombs, je les ai pétés dans le bon sens du terme. Ils ont été prévenants sans plus, quoi. Ils m'ont dit, si vous avez des problèmes, on est là. Mais je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué pour certaines personnes. Je te dis, autant je pense que 20 ans plus tôt ou 30 ans plus tôt, j'aurais réagi de façon complètement différente. Là, j'étais pas dans une espèce de sagesse, mais...
T'as pas fait de folie,
non,
j'ai l'impression.
Pas spécialement.
Est-ce que tu t'es mis à... faire la grasse matinée, plus, picoler, plus, inviter les potes au resto, plus.
J'ai fait plaisir à beaucoup de gens, je pense. J'ai essayé de faire plaisir du mieux que je pouvais.
Donc t'as payé des trucs ?
Oui, voilà, j'ai
fait des
éditions,
t'as fait des cadeaux.
Il y a des gens à qui j'ai donné de l'argent, hein, directement. J'ai donné des 1000 euros, des 500 euros, des choses comme ça, mais à des gens qui... Et puis des fois, j'ai donné des... Tu peux pas donner l'argent, tu vois. Je préférais donner. Bon, je sais pas. J'ai acheté des aspirateurs, des trucs. J'ai donné de l'argent liquide à une amie. Et à, tu sais, je me suis adapté aux gens et c'est très très difficile. Et puis beaucoup de gens. Enfin, il y a beaucoup de mes amis n'ont pas besoin que je leur fasse de gros cadeaux, tu vois.
Un aspirateur, c'est pas un très gros cadeau.
Non plus.
Normalement,
oui.
C'est super utile.
Voilà. Ça dépend des gens. J'ai invité des gens au resto. J'ai fait beaucoup de petits cadeaux, mais des gros cadeaux, non, pas tellement. Oui, ma nièce, j'ai payé une bagnole à ma nièce, bien sûr, des choses comme ça.
Là, on est chez toi.
Oui.
C'est très mignon. J'ai pas l'impression que t'aies voulu vivre comme un prince.
Ouais.
T'as pas changé de style de vie, en fait.
Non, pas plus que ça, à part les voyages, plus de restos. Non. À un moment, je me souviens, à Sydney, je suis allé dans une boutique qui s'appelait Banana Joe, une boutique de vestes vraiment magnifique. Alors, la clientèle, c'était Tom Cruise, Elton John. Je suis fan du jaune, donc je vois une superbe veste jaune. Je demande le prix, le mec me dit 5 000 $. Pour moi, 5 000 $, c'est le prix d'un billet d'avion avec...
C'est un super luxe d'un truc que tu t'achètes pas tous les jours, quoi. Mais alors, attends, tu l'as acheté, la veste à...
Non.
Tu l'as pas acheté ?
Non. Non, ça vaut pas le coup. Une veste, je vais la porter, ça va durer quoi ? J'aime les jolies choses, j'aime les belles choses, j'aime les costumes Armani, j'aime les smokings, j'aime les belles voitures, etc., etc. Mais bon... elles sont là, elles existent, c'est très bien, ça ferait plaisir de les conduire, mais tu vois, j'ai acheté une tipi, par exemple.
C'est quoi une tipi ?
Un Peugeot tipi, un utilitaire, un véhicule familial, mais dans le tipi, je peux mettre mes vélos.
Oui, c'est pas show off.
Non.
C'est plutôt pratique.
Oui,
quand
oui,
on
oui.
fait du VTT comme toi,
voilà.
Quoi.
Oui. Ah, par contre, je te dis, si ça m'arrive à 20 ans, tu peux être sûr que je m'achète une Mercedes, hein. Une Mercedes de collection, mais une belle Mercedes.
Est-ce que t'es plus riche que l'homme de ta vie ?
Oui. Enfin, plus riche. Moi, je ne me considère pas comme riche, si tu veux. Je... Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir une entreprise. J'ai une entreprise. Je gérante une entreprise.
La SCI familiale. Mais t'as plus de thunes que lui.
Oui,
que
un
ton
peu
compagnon.
Plus. Oui, je suis plus à l'aise. Mais bon, il est arrivé, il parlait pas un mot de français. Tu vois, c'était il y a 4 ans. Il y a eu le Covid entre-temps. Donc, mais par contre, l'ascenseur social fonctionne dans tous les cas pour quelqu'un qui vient de l'étranger et qui essaye de travailler en France.
Il se débrouille bien.
Oui, assez bien. Oui.
Comment vous faites? Vous partagez équitablement les frais?
Oui.
C'est moitié-moitié ou toi tu payes un peu plus parce que tu as plus de frais?
Non. Il gagne plus que moi d'abord.
Ah, maintenant, ça y est, il gagne plus que toi?
Oui. Il gagne plus que moi et puis non, on partage la question.
Ah oui, en fait, il gagne plus que toi, mais toi tu as plus de patrimoine. C'est comme ça
voilà.
Que c'est. Voilà. Ouais. Lui, il n'a pas de patrimoine, mais il gagne mieux sa vie que toi.
Ouais.
Ok. Ouais. Donc vous faites moitié-moitié?
Oui. C'est le plus simple.
J'ai l'impression que ça a moins changé ta vie que ça ne l'a en quelque sorte allégé.
Oui, ça m'a libéré d'un tas de problèmes. Oui.
Tu continues à jouer au loto?
Oui, bien sûr. Moins, parce que j'oublie, et puis je vais moins souvent au tabac. Mais oui, sinon j'ai mon smartphone, mais je préfère jouer au ticket. C'est le plaisir de dire, de demander à quelqu'un un ticket pour le recevoir de quelqu'un.
Le buraliste, il te connaît maintenant?
Celui qui m'a dit que j'étais gagnant, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais par contre, celui qui m'a vendu le ticket ne sait pas qu'il me l'a vendu à moi. Qu'est-ce que ça leur fait à eux de vendre le ticket gagnant? J'espère que ça leur apporte quelque chose.
Du bonheur?
Ouais, oui, au moins ça, de faire le bonheur autour d'eux. Mais bon.
Tu connais d'autres gagnants du loto?
Non. Mais je connais j'ai un ami, le jour où je lui ai annoncé, il m'a dit « Ah merde, alors ça veut dire que moi je pourrais pas gagner ?» Je lui regarde, je lui dis « Mais pourquoi ?» Il dit « Bah parce que toi tu as gagné, je te connais, je dis, ça n'a pas de rapport. Continue à jouer mon gaillard. » Non mais c'est le sentiment que tu peux avoir tout de suite, je me souviens, un jour un de mes amis m'a dit « Mais moi si je gagne au loto, je saurais pas quoi faire. » Je lui dis « Bah écoute, appelle-moi et je t'expliquerai. »
Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. Le montage est assuré par Bastien Bironneau sur une musique toujours d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vraiment, n'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast. On a aussi créé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et ça nous aide beaucoup à continuer. Enfin, vous pouvez toujours nous joindre pour toute critique, commentaire ou discussion sur les réseaux sociaux et notamment sur notre Insta. On répond toujours. À bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps. Du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.